Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Et comme je vous le disais, dispositif expérimental s'il en est, nous sommes au cœur de l'espace des sciences en direct, juste avant la conférence de Julien Bobrov qui est avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes physicien, vous êtes très intéressé par la physique quantique, vous avez beaucoup travaillé sur énormément de sujets, notamment la supraconductivité, un phénomène particulièrement intéressant sur lequel on ne reviendra pas aujourd'hui, puisque je vais plutôt vous parler du principe de vulgarisation, de comment rendre accessibles tous ces savoirs, ces étrangetés du monde quantique que vous voulez faire voir, tout simplement. Vous avez travaillé dans énormément de domaines, notamment les nouveaux états de la matière, où on était au cœur vraiment de ces questions-là, supraconductivité, magnétisme quantique, liquide de spin, métaux exotiques, matériaux aux électrons fortement corrélés. Vous pourrez, si vous voulez, nous en dire quelques mots. En 2014, vous veniez déjà à l'espace des sciences et vous disiez, je vous cite, « Si vous utilisez des outils de médiation conventionnels, alors vous ne toucherez qu'un public conventionnel, un public déjà intéressé et familier avec la science. » Vous avez également pu dire qu'on était dans un moment assez particulier, un moment où il fallait vraiment s'emparer des nouveaux outils, des nouvelles interfaces. Quels sont ces nouveaux outils, ces nouvelles interfaces indispensables à s'approprier?
La vulgarisation telle qu'on la connaît habituellement, c'est ce que je vais faire ce soir à l'espace des sciences, c'est-à-dire quelqu'un sur scène qui va raconter de la science, ou quelqu'un dans une radio, ou dans un journal, ou qui va écrire un livre de vulgarisation scientifique. Et tout ça, ça marche très bien. Je crache pas dans la soupe, et je pense que ça a sa fonction et qu'il faut que ça continue. Moi, ce que j'essaye de plaider, c'est d'aller aussi vers d'autres formats. Alors l'exemple le plus simple qui vient en tête à tout le monde, c'est YouTube. On voit bien que YouTube, arrivant depuis quelques années, soudain, des nouveaux vulgarisateurs ont émergé sur le YouTube français, le YouTube américain et dans tous les pays pour parler de science différemment. Et dans des canaux auxquels on ne s'attendait absolument pas, on ne pensait pas que ça pourrait marcher un jour. Un type qui est face caméra dans sa chambre et qui 30 minutes va parler de théorie de la relativité, qui n'était pas connu avant, qui n'est pas un grand scientifique, et pourtant ça va faire 500 000 vues. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, de base que tout le monde peut s'imaginer. Et plus généralement, je crois que vraiment, il faut ouvrir la porte à toutes les autres façons de parler de science, un peu comme on parlerait d'autres choses. Nous, ce qu'on a beaucoup exploré, c'est par exemple le design, l'illustration, la vidéo, le cinéma d'animation. Donc plein de façons d'essayer de parler d'un sujet très scientifique au départ, par exemple la physique quantique, et par le format d'essayer de décoincer, de moins faire peur aux gens et de les emmener vers d'autres territoires aussi.
Vous pouvez dire aussi avec Frédéric Bouquet, avec qui vous avez fondé La Physique Autrement, qui est un peu aujourd'hui votre cheval de bataille, si je puis me permettre cette expression. Vous avez constaté que le public avait changé ses modes d'apprentissage. À quel moment vous vous êtes retrouvés tous les deux, vous vous êtes dit il faut vraiment faire quelque chose?
Déjà, on intervenait beaucoup dans les lycées. Donc on allait avec une petite valise d'expérience, on s'imposait, et puis on allait parler pendant 2 heures devant une classe de lycéens, de terminale, première, seconde, réunis et par leurs profs, ils ne pouvaient pas venir sur la base du volontariat, ils étaient obligés de venir. Et très vite, on se rendait compte de la limite de l'exercice, de smartphone dans la salle, etc., etc. Et puis aussi au moment des questions, on voyait bien qu'ils nous posaient par exemple des questions pas du tout sur les terrains qu'on attendait. On pensait qu'on allait nous poser plein de questions très sophistiquées, alors là le graphe, pourquoi le point est en bas, en haut. Et les questions par exemple, c'était plus sur notre vécu de chercheur à nous, qu'est-ce qui pouvait motiver un chercheur le matin, comment ça se passait une journée de recherche, comment on était habillé, etc. Donc on s'est rendu compte déjà sur les sujets qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait peut-être se décaler un peu. Évidemment, continuer à avoir la matière dure, moi ce qui m'intéresse c'est quand même parler de physique. Mais aussi, à un moment donné, parler de ce qu'est le monde de la recherche. Donc à partir de là, nous, on a essayé de développer des nouveaux outils, justement, pour parler des chercheurs, de leur quotidien, à travers la bande dessinée, par exemple, ou à travers le cinéma d'animation. Donc trouver des façons un peu plus sensibles et délicates, autres que le roman photo, on va dire, pour parler de la recherche et des chercheurs. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment où soudain, je me suis rendu compte et je me suis dit « Waouh, les choses changent ». Je pense que c'est YouTube quand même qui m'a fait changer d'avis. C'est-à-dire que soudain, voir l'émergence des chaînes YouTube il y a peut-être 4, 5, 6 ans, et voir que soudain, par exemple, Minute Physics, une chaîne américaine, où le type faisait avec un stylo noir sur du papier blanc, filmé vu de haut, un stop motion absolument ridicule, vraiment très bas niveau, pour expliquer en une minute un concept de physique. On n'y comprenait rien, ça allait trop vite, et ce type faisait à chaque fois 500 000 vues. Donc je me suis dit, là, il se joue quelque chose dans ces nouveaux médias, et ces nouvelles façons de s'approprier la science, qu'il faut aller explorer, qu'il faut aller voir aussi avec un regard critique, mais on ne peut pas laisser ça à côté et nous continuer à l'ancienne, on va dire.
Et pour cela, vous avez engagé un travail coopératif avec les spécialistes des nouvelles interfaces, les graphistes, les designers, les médiateurs, les professeurs. Comment ça s'est déroulé? Vous avez été bien accueillis au départ quand vous avez voulu justement rendre cette science accessible?
Oui, c'est incroyable tellement eux, ils disent toujours oui. À chaque fois que j'étais dans une école d'art ou dans une école de design ou voir un professionnel et que je lui ai dit « Tiens, si on faisait la physique quantique ensemble et sur les sujets les pires possibles, je n'ai jamais eu un refus. » Ils ont une curiosité et un intérêt pour des choses étranges et nouvelles. Et puis en plus, alors là, je pense que la physique, elle a une chance, c'est que Vu qu'on est dans un monde assez abstrait, assez conceptuel, il n'y a pas grand-chose qui ait déjà été fait d'intelligent. Et donc, ils ont une liberté artistique, conceptuelle, créatrice. Ils peuvent se lâcher, en gros. Un designer face à la physique quantique, il ne va peut-être pas tout comprendre, mais il a clairement un terrain de jeu. Et ce dont on s'est rendu compte, d'ailleurs, c'est que ce n'était pas forcément nécessaire qu'ils comprennent tout. C'est-à-dire que cette illusion qu'il faut avoir absolument très bien compris sa discipline pour la vulgariser, ça c'est complètement vrai évidemment pour un vulgarisateur et pour un discours scientifique. Mais si on travaille, si moi par exemple je travaille avec un designer sur par exemple la supraconductivité, il n'est pas forcément nécessaire que le designer ait tout compris. Il peut même revendiquer le fait de ne pas avoir tout compris et de s'en servir pour essayer d'explorer des territoires différents. Et c'est là où va jouer le jeu de la collaboration. Nous ce qu'on a voulu développer, c'est le fait que le scientifique ne va pas venir avec son cahier des charges en disant « alors voilà, je veux que tu me fasses un truc qui commence par du rouge, puis du bleu, puis du vert ». Non, non, qu'il laisse le créateur faire son métier de créateur et lui trouver des solutions intelligentes. Mais que par contre, le scientifique soit là tout au long du processus pour vérifier que la science, elle, n'est pas fausse, pour voir jusqu'où il peut aller en vulgarisant. Et donc, il y a vraiment une collaboration un à un, où le scientifique impose pas sa parole, où le designer non plus n'oublie pas la science en cours de route, mais où les deux se tiennent la main en gros pendant tout le processus de création. Donc ça, on l'a exploré beaucoup avec des écoles d'abord, dans des workshops, dans des projets collaboratifs, et puis ensuite avec des professionnels. On a vraiment développé une façon de bosser ensemble, où on est sûr qu'on se tient la main en permanence pour que et la science et le design, ils retrouvent chacun un petit peu ce qu'ils sont venus y chercher.
On y revient dans quelques instants avec l'expérience Design Explain Science, avec un très beau site et notamment un travail qu'on écoutera tout à l'heure si vous le voulez bien, la physique racontée en fable, ça fonctionne très bien. Vous avez parlé là des designers, on a parlé de d'autres personnes comme des médiateurs. Les artistes, est-ce que c'est un cas particulier de travailler avec des artistes autour des questions scientifiques justement ?
Oui, c'est très particulier. C'est particulier, c'est un peu différent du designer ou du vidéaste ou autre, même s'il y a évidemment une dimension artistique dans les autres, parce que l'artiste, il revendique à un moment donné aussi sa propre parole, son propre style, sa créativité. Il peut revendiquer clairement, là, pour le coup, de s'échapper de la science et de lui faire dire des choses qu'elle ne saurait pas dire. Et je pense que face à un artiste, on a moins de contrôle et c'est normal. On ne va pas chercher à le contrôler. Donc je crois que le travail entre art et science, c'est un travail différent de ce que nous, on essaie de faire. Je l'ai fait, moi, dans un seul cas récemment, avec un artiste qui s'appelle Patrick Corillon. Mais en général, ce n'est pas ce vers quoi je vais naturellement, parce que moi, mon but, c'est quand même à la fin qu'on vulgarise de la science. Donc j'arrive quand même avec une demande, et dont l'artiste peut complètement se détacher, ce que je comprendrais, ce que je trouverais légitime. Donc en général, moi, je suis moins à l'aise pour travailler avec des artistes, même si la science, je trouve, est une matière formidable pour les artistes.
Julien Beauboeuf, on poursuit cette discussion dans quelques instants, mais j'en parlais de ce travail d'Andréane Valo, notamment autour du plomb et de la plume. On connaît tous bien cette fameuse phrase, qu'est-ce qui tombe plus vite, qu'est-ce qui est le plus lourd, un kilo de plomb, de plume. Et en fait, autour d'un conte, quand la physique se raconte en fable, elle arrive à expliquer énormément de choses. Vous n'aurez ici que le sonore, je vous invite à découvrir tout ça dans son intégralité sur designexplainscience.com et on en parle juste après.
Voici un monde où vivaient deux clans bien distincts. Oh, de près ou de loin, ils n'étaient pas cousins. L'un, léger, volait sans aucune difficulté, quand l'autre, trop lourd, ne pouvait jamais décoller. Ces derniers, frustrés de se sentir inférieurs, cultivaient sans fin leur jalousie intérieure. Alors, pour flatter leur fierté, les plombs proposèrent le temps d'une chute de se faire adversaire. Pourtant, chute après chute, envol après envol, les plumes peinaient sans cesse à atteindre le sol. Démotivées, elles commençaient à perdre espoir, voyant leur adversaire proche de la victoire. À l'écart, une petite plume observait les chutes. Se perdant dans ses pensées l'espace d'une minute, une simple interrogation la fit s'agiter. Projetant ses idées, elle se mit à douter. Si la vitesse de chute dépend de la masse, que se passera-t-il si les deux corps s'enlacent ? L'union de ces deux corps devrait tomber plus vite, car elle serait plus lourde. Mais s'ils se précipitent, la légèreté de la plume devrait freiner le poids, que l'air seul ne pourrait pas arrêter. Se tenant face à ce paradoxe impossible, elle chercha alors une alternative crédible. Suivant le comportement des deux concurrents, elle observa un léger détail saisissant. Sur chacun d'eux s'exerçait bien à sa façon l'emprise des molécules d'air, défiant l'attraction. Elle comprit là que ce n'était que les frottements de l'atmosphère qui désavantageaient son clan. Pour enfin se défaire de cette force invisible, elle partit donc faire le vide autant que possible. Proposant une revanche contre le plus massif, très peu intimidé, il n'y fut attentif. Plus le moment de la chute ultime approchait, plus la tension entre les deux camps culminait. Le temps d'un bref instant, ensemble ils s'élancèrent, mais cette fois, autour d'eux, il n'y avait pas d'air. Et une fois à terre, même la mesure du temps ne pouvait départager nos deux concurrents. Vous qui pensiez connaître l'issue évidente, la réalité apparaît bien différente. Car il est un principe qui, depuis Galilée, en tout point de l'univers, demeure vérifié. Telle est la loi de la chute des corps. Sans cesse, sans air, toute chose tombe à la même vitesse.
Andréane Valo avec un très beau conte, Le plomb ou la plume, à découvrir en vidéo. C'est encore plus beau sur designexplainscience.com. Un travail mené notamment avec Julien Bobrov qui était avec nous ici aujourd'hui dans le cadre du gros travail mené pour la vulgarisation, l'accessibilité de ce savoir. Comment ça se déroule notamment avec Andréane par exemple quand vous voulez travailler ensemble? Comment ça se passe concrètement?
Alors là, c'est un projet fait avec une école qui s'appelle l'ENSI, qui est une école de design avec laquelle on bosse depuis 5-6 ans. Donc on va voir les designers de cette école-là et on leur dit, bah, allez, on se fait un projet ensemble. Donc eux, ils travaillent par semestre. Donc pendant un semestre, ils vont avoir 12 étudiants qui vont 2 ou 3 jours par semaine, donc c'est un gros boulot pour eux, essayer de monter un projet de vulgarisation. Comment ça se passe? Au début, j'arrive et je leur parle de science. Là, par exemple, je leur ai parlé de plein de sujets de science qui me semblaient intéressants en ce moment. Et puis, ils viennent piocher là-dedans, voir ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas. Ils reviennent, ils discutent. Je reviens plusieurs fois. Puis, au bout d'un moment, ils choisissent un sujet, ils font des premiers essais et après, ils produisent un objet de design. Alors là, ce qu'on a entendu, c'est un conte sonore. En fait, il faut le voir, hein, c'est un objet d'animation absolument magnifique. Et va y avoir ensuite tout un échange où moi, je vais revenir peut-être une fois toutes les 2-3 semaines. Les designers accompagnent leurs étudiants et ils vont progressivement avancer dans le projet avec à la fin une restitution publique et tout un travail aussi de mise en scène et de mise en spectacle de ce public vers le grand public. Et donc, vous pourrez voir sur ce projet ou sur d'autres qu'on a pu faire dans le passé qu'il y a toute une variété de projets qui sont produits par les designers. Ça peut être de la vidéo, du dispositif, des performances, il y a des trucs assez spectaculaires, ou des objets évidemment, ou ici un conte en alexandrin. Donc, ils vont explorer tout un champ des possibles. Ce que j'aime bien avec les designers, c'est que quand on a 12 designers, on aura à la fin 12 projets incroyablement différents les uns des autres, parce qu'ils ne sont pas coincés dans un savoir-faire. Ils vont évidemment être peut-être moins bons qu'un vidéaste professionnel dans le sujet, mais ils vont savoir aller toucher plein de domaines et plein de formats. Et nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir explorer ces formats. Vous m'auriez demandé avant la chute des corps de Galilée en alexandrin comme un conte pour enfants, j'y aurais pas cru une seule seconde. Et là, elle me montre que non, il y a une esthétique, il y a quelque chose dans le travail sur la plume, sur le plomb, sur l'aspirateur dans la vidéo qu'il faut vraiment aller voir, qui soudain est déroutant et étrange et parle de la chute des corps comme personne, à mon avis, n'en avait parlé avant. Et donc vraiment explorer ces champs de possibles sans s'être braqué à l'avance en se disant je veux faire ci ou je veux faire ça, c'est, je pense, la grande liberté de ces projets et que nous, on offre. On ne dit pas aux gens il faut absolument le faire de cette manière ou de celle-là. Quand elle est revenue me voir et qu'elle m'a dit je veux le faire en alexandrin, je lui ai dit, écoute, fais-moi lire les alexandrins, et si la science dedans est bonne, moi, j'ai pas de problème. Et c'était sa liberté à elle. Donc, on aime bien qu'il y ait cette grande liberté, mais avec toujours ce dialogue au fur et à mesure.
Julien Bobrov, dans cette, la physique autrement, ce collectif, on pourrait l'appeler, c'est très important pour vous de développer des actions de diffusion, de partage avec le grand public, c'est bien ce qui est dit. Est-ce que ces designers-là ont un sens de ce que le grand public peut recevoir, qui est éventuellement plus grand ou différent?
Ah, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Mon impression, c'est qu'ils sont eux-mêmes leur propre grand public. C'est-à-dire que le designer, en m'écoutant au début, quand je vais lui parler de science, et au fur et à mesure, va lui-même se mettre dans la peau de la personne qui n'y connaît rien, parce qu'il n'y connaît rien en général en science, et voir comment lui-même assimile ça et le rend à sa façon. Maintenant, est-ce qu'à la fin, le designer a une très bonne perception du grand public? Je ne le crois pas, je ne suis pas sûr, et ce n'est pas très grave. C'est-à-dire, ce dont on s'est rendu compte, c'est que nous-mêmes, on avait une mauvaise perception alors qu'on pense connaître le grand public par cœur. Et par exemple, à l'avance, moi, quand je vois les projets produits par les designers, je parie sur certains projets, alors que c'est d'autres qui vont mieux marcher face au public. Donc je crois que personne ne connaît forcément bien le grand public. Après, certains publics, dans certains contextes, on sait bien comment ils réagissent. Mais moi, si j'avais à parier sur les projets qui ont le mieux marché parmi tout ce qu'on a pu faire depuis des années et des années, en général, je me serais toujours planté.
Justement, ce pari-là, il est intéressant. À quel moment se dit-on, même s'il est faux, hein, voilà une info ou voilà une forme qui va parler au grand public et qu'il faut absolument diffuser ?
Oh, j'en ai aucune idée. C'est terrible, hein, je ne sais pas répondre à vos questions. Je crois que d'abord, ça passe par son propre sentiment. Et si soudain, ça nous parle et qu'on est touché d'une certaine manière. Moi, je teste ça aussi sur mes enfants. Ça marche toujours bien. Donc, j'ai deux adolescentes. Alors maintenant, elles en ont un peu marre. Mais au début, je testais, je leur montre, je regarde comment elles réagissent. Et puis après, à un moment donné, c'est l'épreuve du public. C'est-à-dire qu'on peut toujours se faire plein de discours en disant ça, je pense que ça va marcher, ça, moins bien, etc. Il faut le montrer. Il faut le montrer dans une classe de lycéens. Il faut le montrer dans une fête des sciences. Il faut le mettre sur Internet, sur YouTube, sur Facebook et voir la réaction du public. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on peut toujours se faire plein d'illusions. Moi, je ne crois plus à aucune bonne recette.
Est-ce qu'il existe en revanche des sujets plus importants à vulgariser ? Des sujets où vous dites qu'il faut absolument que le grand public sache ça ?
Alors là, nous, on a un point de vue vraiment hyper restrictif et rétréci, même, je peux dire. C'est que moi, il n'y a que mes sujets à moi qui m'intéressent. Donc là, je vais être très, très clair. Je ne parle jamais de biologie, jamais de chimie, jamais de toutes les autres disciplines. Et même en physique, je ne parle absolument pas jamais, par exemple, d'astrophysique ou de physique des particules ou de mécanique des fluides. Je ne parle que de la physique qui m'intéresse, c'est-à-dire les solides, la matière, la quantique, un petit peu d'optique parce que ça m'amuse quand même, un petit peu d'atomes et c'est tout. Et la raison à ça, c'est pas que je trouve que les autres sujets ne sont pas importants, mais c'est que là, pour le coup, je ne veux parler que des sujets que je maîtrise vraiment bien. Là, il y a un problème d'autorité scientifique, on va dire, et de savoir, qui est que je veux parler que de mes domaines de spécialité. Je pourrais bien sûr faire une conférence sur le Big Bang, je pense que j'y arriverai, mais je ne me sens pas assez pertinent. Et donc, pour moi, c'est très important que je garde ma spécificité en termes thématiques. Et de la même manière, c'est un peu ce qui se joue aussi quand on va travailler avec un designer, avec un vidéaste, etc. Je me refuse de faire les choses moi-même. On se refuse de fabriquer une vidéo nous-mêmes alors qu'on pourrait probablement le faire. On veut être entouré de professionnels qui vont le faire mieux que nous. Moi, je pense qu'à chacun son domaine de compétence. Moi, ma compétence, c'est la physique des solides et de la matière. Leur compétence, c'est par exemple le design. Et en se mettant ensemble, on va produire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un truc qui est peut-être différent chez d'autres, mais quand on parle souvent d'interdisciplinarité, un truc très à la mode, vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Pour moi, l'interdisciplinarité, elle marche bien quand il y a deux personnes, chacune d'une discipline, hyper forte dans sa discipline, et elles arrivent à dialoguer ensemble. Il y a des gens qui pensent que ça peut aussi très bien marcher si l'artiste lui-même est scientifique. C'est pas notre démarche à nous.
Est-ce que, en revanche, dans l'intérêt que vous aviez, peut-être à un moment donné, si vous êtes devenu ce spécialiste de la matière, de ces corps, est-ce qu'il y avait un instinct de se dire c'est un domaine de recherche qui est plus important que les autres? Comment ça s'est déroulé? Comment vous avez pris cette voie?
Pourquoi j'ai choisi ce domaine-là? Au début, moi, j'étais un peu comme tous les étudiants qui vont vers la recherche et la physique. Non, au début, même, c'était les maths, pour moi, la chose la plus noble, évidemment. Ensuite, quand je redescendais un peu dans l'échelle des noblesses parce que j'étais pas assez fort en maths, je pensais que c'était l'astrophysique qui comptait le plus, ou la physique des particules, des forces fondamentales. Parce qu'on a ce côté en France de dire ce qu'il y a de fondamental, d'important, d'universel, c'est le plus important. Et en fait, c'est de visiter les laboratoires qui a fait changer mon avis, où soudain je me suis rendu compte qu'un labo comme le CERN qui étudiait le boson de Higgs, c'était 2000 personnes ensemble, chacun ayant un tout petit but du projet. Et moi, ce qui m'amusait, alors je sais pas si c'est mégalo ou pas, c'était avoir mon expérience à moi tout seul et pouvoir jouer avec et me dire si j'ai trouvé un truc, je l'ai trouvé tout seul, même si c'est peut-être moins important. Et ça, ce qui offre cette possibilité, c'est clairement la physique des solides et la physique de la matière, où une expérience, on est à un, deux ou trois dessus, pas plus, et on peut s'en sortir et travailler bien de façon autonome. Donc moi, ce qui m'amusait, c'était des petites équipes, on travaille 2-3 ans sur un sujet, et puis ce qui m'intéressait, c'était quand même la physique quantique, et donc les deux se retrouvent dans la physique des solides. Donc c'est en fait pas du tout parce que je trouvais que c'était un domaine plus beau que les autres, mais parce qu'au quotidien, je trouvais ça plus intéressant que de travailler sur une instrumentation avec beaucoup d'autres personnes, ou alors devoir voyager aux quatre coins du monde. Moi, je suis assez casanier, j'étais très content d'être dans mon petit laboratoire à Orsay.
Et pourtant, aujourd'hui, vous menez des conférences comme ici à l'Espace des Sciences, où en termes d'expérience, c'est quand même quelque chose, vous êtes seul face à un public, enfin, il y a un modérateur, mais quand même, est-ce qu'il y a un peu une dimension, est-ce que ça vous plaît, c'est le côté scène, est-ce qu'il y a une dimension rockstar, disons-le ?
C'est tentant. Je pense que tous les vulgarisateurs qui aiment faire ça, ils ont quand même un côté un petit peu mégalo, qui est de bien aimer parler devant un public. Mais c'est une figure de style qui se joue aussi dans l'enseignement. Hein. Quand on enseigne face à un amphithéâtre ou même face à 30 élèves, dès qu'on est dans cette posture de celui qui sait et ceux qui ne savent pas, c'est toujours un peu tentant de s'écouter parler et, voilà, et d'être la star. Alors j'essaye de ne pas céder à ces sirènes-là, même si je sais que c'est tentant. Et j'essaye de faire attention. Donc déjà, on essaye d'être plusieurs à parler sur ces sujets-là. Et puis tout mon travail justement avec les designers, avec les artistes et autres, fait qu'on produit des objets où il n'y a pas ma tronche et moi parlant, mais où c'est d'autres personnes qui occupent cette parole scientifique. Et si vous allez sur notre site web qui s'appelle vulgarisation.fr, c'est peut-être plus simple à retenir que l'autre nom là de tout à l'heure, où vous retrouverez tous nos projets, vous allez voir qu'en fait il n'y en a quasiment pas où on me voit moi en train de parler ou de mener un discours, comme je le fais ce soir en conférence. La plupart des projets, en fait, on est caché derrière et c'est la science qui est mise en avant. Et pour moi, c'était aussi ça. C'était m'empêcher de devenir trop mégalo et de jouer à la rockstar que de devoir travailler avec d'autres gens et produire d'autres outils de vulgarisation. L'intérêt aussi, c'est que ces outils, tout le monde peut les utiliser parce que ce n'est pas Julien Bobrov qui parle, mais c'est une petite animation de physique quantique qu'on a construite et que n'importe qui peut utiliser et qui peut s'accaparer. Et pour moi, c'est important de ne pas être qu'une rockstar de la science. Par contre, je pense très important qu'il y en ait qui le fassent. Et je pense très important qu'il y ait des rockstars de la science et des gens qui mènent cette parole et qui soient connus et qui aient une parole audible et qui puissent dire des choses profondes sur la science. Et ça me va très bien. Et que je le fasse moi un petit peu, ça me va très bien aussi. Je ne veux pas faire que ça et je trouve très bien qu'il y ait des gens qui le fassent.
Julien Bobrov, découvrez quand même son côté rockstar ce soir à partir de 20h30 à l'espace des sciences, salle Hubert Curien. On disait quelques mots de ces vulgarisateurs-là. Parfois, ce sont des acteurs ou des personnes comme, voilà, on peut citer Alexandre Astier qui a fait très récemment un spectacle comme ça avec quelques, on va dire comment, difficultés, limites scientifiques. Par contre, beaucoup d'accessibilité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en quelques mots?
Je ne l'ai pas vu, le spectacle, c'est la honte. Mais alors, je peux dire que tous mes étudiants l'ont vu. C'est impressionnant comment il est populaire chez les étudiants de physique. Alors ça, je peux vous le dire. J'ai vu quelques extraits. Je pense que c'est d'une grande qualité. Je pense que c'est d'une grande qualité parce que Alexandre Astier, si j'ai bien compris, en écoutant ce qu'il raconte, ne fait pas n'importe comment et a été discuté avec des scientifiques. Moi, j'ai des copains à moi qui ont été discutés avec lui de science. Et il s'est assuré que ce qu'il disait était correct. Donc pour moi, comme toujours, si la parole est portée par un scientifique, je trouve ça toujours bien. Si elle est portée par un non-scientifique, mais qui s'assure que ce qu'il dit est correct, ça me va aussi. La plupart des youtubeurs connus ne sont pas des chercheurs. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de chercheurs connus qui soient youtubeurs. Et ce n'est pas gênant. Ce qu'ils font est de grande qualité tant qu'ils s'assurent du contenu scientifique. Par contre, il ne faut pas que ça remplace complètement les chercheurs. Moi, je tiens à l'idée que des scientifiques qui sachent ce qu'est le monde des laboratoires puissent intervenir quand même dans des lieux publics, qui ne soient pas entièrement remplacés par des gens du monde du spectacle, ou de l'humour ou de la communication. Alors pas parce qu'ils sont meilleurs, bizarrement, mais parce qu'ils témoignent de quelque chose. Qu'à un moment donné, avoir passé 20 ans de sa vie à étudier le petit pouillème du truc dans le laboratoire fait que quand on en parle, il y a quelque chose qui se joue, il y a une authenticité que jamais Alexandre Astier n'aura. Donc je pense que les deux doivent exister, mais qu'il ne faut pas que les chercheurs se disent « Bon, c'est bon, Alexandre Astier fait le boulot » ou « Les gens sur YouTube font le boulot, je peux retourner dans mon labo et je peux laisser la parole à ces gens-là. » Je pense que c'est très important que les chercheurs continuent à occuper aussi la parole et la vulgarisation vis-à-vis du grand public.
On est bien d'accord, et si on a quelques instants juste après, on parlera du travail de Dynamique Réseau et notamment d'une université très intéressante en train de se monter, enfin qui travaille dur. Cela dit, qu'est-ce que vous pensez des chercheurs qui trouvent que la vulgarisation, c'est quelque chose de mauvais, qui sont allergiques à ce terme, sachant que vous avez donné ce nom à votre site internet?
J'ai donné ce nom parce que c'était le nom qui était libre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chercheurs comme ça. Je pense que ce que disent les chercheurs, c'est plutôt « ça prend trop de temps et moi j'ai d'autres choses à faire plus importantes ». Je ne pense pas qu'ils disent que ça n'est pas important en tant que tel. Je pense que tout le monde est convaincu que c'est important. Moi, je respecte complètement ça. La vie de chercheur, ce n'est pas une vie simple. Moi, je suis enseignant-chercheur, c'est encore pire. Et c'est dur de libérer du temps. C'est d'autant plus dur que nos institutions ne nous y incitent pas. Ça ne compte pas beaucoup dans les carrières. Ce n'est pas forcément valorisé par les collègues. Et donc, ce n'est pas évident à un moment donné d'aller faire de la vulgarisation et je ne jette pas la pierre aux autres chercheurs. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a différentes façons de s'investir dans la vulgarisation et que si un chercheur dit « moi, ça me prend trop de temps, j'ai pas trop envie », je vais toujours trouver une petite façon qu'il a de venir juste peut-être un quart d'heure sur un stand de fête des sciences ou venir participer peut-être à une toute petite conférence, pas avoir un gros investissement au début, mais un tout petit truc à un moment donné ou répondre à des questions sur Internet ou encadrer un TPE ou un TIPE et que ça peut être une petite contribution. Donc moi, je trouve que chaque chercheur peut un tout petit peu s'impliquer à sa mesure. Ceux qui n'ont pas beaucoup de temps ou que ça intéresse pas beaucoup, on peut leur trouver des façons faibles de s'investir. Et ceux que ça amuse vraiment, on peut trouver des façons plus importantes. Et puis l'autre message à mes amis chercheurs qui pensent que ça prend trop de temps, c'est entourez-vous de professionnels. Ça prend pas de temps quand on a un professionnel qui bosse pour nous, quand on a un illustrateur ou un designer ou un web designer qui nous fait tout le boulot, il suffit juste de trouver l'argent. Et c'est pas beaucoup d'argent par rapport au contrat de recherche habituel. Et dans ces contrats, il y a toujours des rubriques prévues pour la vulgarisation. Donc mon conseil stratégique à tous les chercheurs ou étudiants, chercheurs, etc., c'est trouver de l'argent, payer des gens bien avec qui travailler dans le monde créatif et des gens qui demandent que ça, et puis travailler ensemble et vous allez voir que ça va vous faire gagner du temps. Ce que vous allez produire derrière, ça va être bien plus professionnel que votre PowerPoint habituel ou votre poster et à la fin, ça servira à tout le monde.
Et vous pouvez aussi venir sur SciLab de temps en temps, la radio universitaire de Rennes, pour parler de vos sujets scientifiques qui nous intéressent très clairement et qui intéressent énormément nos auditeurs aussi. Est-ce qu'on dit très rapidement un mot de l'université de Saclay? Parce qu'on parlait là de ne pas mettre de côté les chercheurs qui, eux, travaillent voilà, très très dur. Cette diagonale Paris-Saclay qui regroupe des recherches, actions, dialogues, sciences, société, de ce futur ensemble, c'est assez dur de s'y projeter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que, voilà, en étant un peu le mot de la fin, si
alors,
je peux me
les gens qui ne connaissent pas, c'est une gigantesque université qui est en fait un rassemblement de plein d'écoles qu'on connaît, Centrale, Polytechnique, Supélec, et puis l'Université Paris-Sud, dont moi je fais partie, et puis le CNRS et le CEA. Et tout ça a lieu sur le plateau de Saclay, qui est en gros à 30 km de Paris. Donc c'est un immense truc. Et là-dedans, nous, on a trouvé très important, avec d'autres chercheurs, de porter une petite institution qui s'appelle la Diagonale Paris-Saclay, où justement on développe les liens entre science et société, à travers le patrimoine, à travers l'art et la science, et à travers la vulgarisation. Pour nous, il est inconcevable qu'il y ait une immense université très importante, très forte, avec énormément de monde, et qui ne s'intéresse pas au dialogue avec la société. Donc nous, on promeut ces dialogues-là, et on essaye de faire que Paris-Saclay parle aussi avec le reste du monde.
Julien Maubreuf, je pourrais parler, je pense, des heures avec vous à la radio. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Pour poursuivre, chers auditeurs, c'est 20h30 à Salut Bercurien de l'Espace des Sciences. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
C'est la fin de cette virgule scientifique, on va dire. On était en direct de l'Espace des Sciences pour notre plus grand plaisir.
Le Labomatique.
L'émission scientifique. Merci.